Et nouvelle semaine de destination que nous allons partager tous ensemble dans l'univers du cinéma, au sens très très large, vous allez le voir, puisque nous allons découvrir la cinémathèque du Limousin qui est installée à Limoges, rue François Chaigneux pour être tout à fait précis, et que nous allons parcourir, découvrir, parce que vous avez peut-être déjà entendu parler de la cinémathèque et on ne s'imagine peut-être pas tout ce qui se cache derrière et toutes les activités que cela regroupe. Et pour nous en parler justement, et bien notamment celui qui est chargé de mission pour le développement de cette cinémathèque est avec nous, Patrick Malfon. Avant de nous détailler toutes les activités tout au long de la semaine, peut-être un mot d'histoire. Cette cinémathèque a ouvert déjà il y a quelques années.
Alors la cinémathèque a été créée en 2009, enfin on va dire début 2010 plutôt, parce que c'était vraiment fin d'année 2009, sous l'initiative de Marc Villemar, ancien rédacteur en chef de France 3 Limousin. Et dans le cadre de son travail, il a fait de nombreux documentaires et l'idée a germé au fur et à mesure des années de sauvegarder un patrimoine jusqu'ici méconnu et en déperdition parfois.
C'est-à-dire que lui voyait passer forcément beaucoup d'images à France 3, et c'est-à-dire il y a tellement d'images tournées, il doit en exister des milliers, c'est dommage de ne pas les recenser, de ne pas les sauvegarder.
Exactement, je crois que c'était à l'occasion du cinquantenaire de la Libération, en 1994. Il fait un appel à la télévision sur la récolte et d'images amateurs pour illustrer donc le documentaire. Et dans cette récolte-là, il y a des documents assez marquants qu'on peut voir sur notre site, mais la libération de Limoges et un autre, c'est Oradour-sur-Glane en 1943, c'est-à-dire un an avant le massacre. Ce sont les seules images animées qui existent de ce village. On peut voir la vie dans le village, on peut voir le clocher, on voit des gens qui se baladent. Et quand évidemment on le met en parallèle avec ce qui se passera un an plus tard, ces images prennent un sens vraiment très particulier, alors qu'à la base c'est des images, des films de famille tout à fait anodins, sur lesquels on pouvait dire « bon, c'est en 1935 ou 55, ça aurait été pareil, c'était à Oradour-sur-Glane ou ailleurs », non. Mais là, ces images prennent un sens vraiment... surdimensionnel, si je puis dire.
Et puis évidemment, on va bien au-delà de l'histoire. On verra dans tous ces documents, ici, on s'intéresse même au-delà du Limousin à beaucoup, beaucoup de choses. On aura l'occasion d'en parler. La cinémathèque du Limousin, elle fait partie d'un réseau, si j'ai bien compris.
Tout à fait. Il y a un réseau qui s'appelle le réseau Inédit, qui est un réseau qui fédère des cinémathèques franco-européennes, on va dire. Quand on dit cinémathèque, c'est vrai que le terme est un peu confusionnant pour le public. Cinémathèque, comme vous le disiez, c'est au sens large, c'est-à-dire qu'il s'attache à récolter, à valoriser l'image animée en général. Donc on n'est pas uniquement et exclusivement sur du film de fiction, sur les Star Wars ou compagnie, on est...
C'est pas un vidéoclub non plus.
C'est pas un vidéoclub, exactement. On fait de la valorisation des films de patrimoine, des films qui ont été tournés en région. Alors à côté d'Ambazac, il y a le château de Montmery qui est plus qu'emblématique, parce qu'il y a eu les Destinées sentimentales, les 10 Châtelets, le film d'Alain René, Providence... Ces films-là, on fait le maximum pour pouvoir les montrer au public, parce que c'est des documents des fois qui sont difficiles d'accès pour des questions de droit. Et puis aussi, on fait une valorisation de documents de films d'amateurs. Donc, ces cinémathèques, au sens large, il y en a plusieurs. Il y en a au moins une par région en France. Il y en a d'autres dans d'autres pays européens, en Belgique, en Italie, en Angleterre. Et on fait partie de ce réseau pour valoriser ces images-là et les mettre à disposition du public, des chercheurs, des étudiants, des producteurs, pour que ça puisse être connu et vu.
Pas uniquement pour vous ici, le principe c'est de partager, évidemment, on le verra toute la semaine, on collecte et on va jusqu'au partage, mais il y a d'autres étapes au milieu, il y a beaucoup de travail effectivement. Un mot sur le site dans lequel nous nous trouvons et de l'équipe qui nous entoure.
Alors le site, la cinémathèque a la particularité d'être un peu éclatée en termes de site, parce que là on est rue François Chaigneux, donc c'est l'espace de bureau où on travaille avec Véronique, Jean qui a la documentation, avec Benoît de Conchat qui a la numérisation, moi-même.
Studio en tout cas.
C'est très studio. Si vos auditeurs viennent, ils seront surpris de retrouver une ambiance studieuse. D'habitude, même c'est un peu plus tamisé.
Il y a la bougie, je crois, d'habitude, mais enfin bon.
Ouais, c'est risqué avec des films flammes. Faut vraiment. Non, je rigole. On n'a pas de films flammes à la cinémathèque. Et donc l'équipe salariée, oui, travaille ici. Les bénévoles aussi. Faut pas les oublier. Il y en a de très nombreux. Qui viennent nous donner des coups de main pour visionner, pour réparer du matériel, des collectionneurs. Et on a d'autres sites où on stocke du matériel, on est en partenariat avec les archives départementales de Vienne où les films sont déposés, et puis on fait des projections sur les salles de cinéma du département, de la région, de la nouvelle région, pour valoriser ces archives et pas uniquement des projections à Limoges. Vous voyez, il y a quelques jours, on était à Magnac-Laval, on fera en 2017 sur... sur la Creuse, voilà, on se déplace.
On est cinématique du Limousin, donc on se déplace. Pour finir, et avant demain d'évoquer ben voilà, étape par étape tout ce que vous faites, votre rapport c'est quoi? C'est plutôt avec des institutions ou on a l'impression que le grand public est finalement moins concerné par les actions de la Cinémathèque, même si on en profite quand même au bout de la chaîne, mais vous me disiez que vous finalement, vous avez la sensation de travailler autant pour les uns que pour les autres?
Tout autant pour les uns que pour les autres, d'une part parce que tous les films que nous numérisons sont accessibles, soit sur notre site internet, on a déjà 2000 séquences en ligne, vous allez sur cinémathèquedulimousin.fr, vous verrez, il y a des séquences sur le Limousin, sur la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi dans les archives départementales, on a développé des postes de consultation multimédia, c'est-à-dire où les visiteurs, lecteurs des archives départementales viennent et ont accès à l'intégralité du fonds qui a été numérisé. Contrairement au site où il y a 2000 séquences, et je sais pas moi, 150-200 heures, si vous allez aux archives départementales, vous avez accès à l'intégralité de ce qui a été numérisé. Donc on s'adresse évidemment au public et au sens large dans ce cas-là. Mais on travaille aussi avec des institutions qui nous confient des films, des archives départementales, municipales, des producteurs privés. Donc le champ d'investigation est très large et touche à peu près, entre guillemets, tous les publics.
Et on y reviendra donc demain pour notre prochain rendez-vous. On verra justement d'où viennent ces trésors dont vous vous occupez, que vous numérisez, que vous proposez ensuite au partage. Ce sera le rendez-vous de demain sur la suite de ce Destination. Notre deuxième rendez-vous cette semaine à la découverte de la Cinémathèque du Limousin. Je rappelle que nous sommes rue François Chaigneux à Limoges en compagnie toujours de Patrick Malfond qui est le chargé de mission pour le développement de cette Cinémathèque. Comment ça se passe? D'où viennent ces petits trésors? On est juste à côté là d'étagères hein, qui renferment de nombreuses bobines. D'où elles viennent tout simplement?
Les sources sont très variées, principalement des déposants cinéastes amateurs, aussi des institutions. Des archives départementales de la Creuse, je vois, via le bouche à oreille. Beaucoup de gens viennent nous voir parce qu'ils ont entendu parler qu'on faisait ça et ils sont très curieux parce qu'ils ont des documents qui sont dans leur grenier, dans leur cave et ils ne savent pas ce qu'il y a parce que ça a été tourné par le père, par la grand-mère, par voilà.
Et parfois, on n'a même plus la machine pour les lire de toute façon.
C'est pas bah, parfois, c'est 9 fois sur 10. Mais quand bien même on aurait la machine, il faut savoir l'utiliser. Mmh. Et on sait l'utiliser, elle est en fonctionnement, l'ampoule ne marche pas. Si l'ampoule marche, si vous n'avez pas le scotch pour la recoller, ça s'improvise pas. Donc si vous n'avez pas été formé, si vous n'avez pas le matériel adéquat, vous ne pourrez pas le regarder.
Alors ça veut dire on prête, on donne, il y a plusieurs versions.
Exactement. Donc quand vous venez à la Cinémathèque, l'idée c'est pas de vous déposséder de vos films. L'idée c'est d'enrichir un fonds et de lui donner une valeur véritable. Le déposant qui va venir, bon ben il y a différents types de conventions qui existent. Il peut faire un prêt à la Cinémathèque, c'est-à-dire qu'il reste propriétaire du film, mais il le récupérera une fois qu'il a été numérisé. Il peut y avoir un dépôt, c'est-à-dire un prêt à longue durée, où il peut le donner le film. Donc il y a différents types de conventions, ça c'est absolument pas un souci et il faut absolument pas que ce soit une barrière pour le déposant qui vienne. Toutes les modalités sont envisageables. L'important c'est que les films soient visionnés et qu'on puisse faire le travail dessus pour les conserver.
Et puis alors il y a des films que vous récupérez vous-même, que vous sauvez un peu in extremis de la destruction.
Il n'y a pas encore une procédure bien adaptée là-dessus, mais bon, c'est vrai qu'il nous arrivait assez régulièrement de récupérer des films, mais qui étaient bénés, voilà. Dans des déchetteries, bon, bah, des fonds de films 35 mm, 16 mm qui sont jetés, et qui, par chance, via le réseau de bénévoles qu'on évoquait hier, bon, bah, sont rapportés à la Cinémathèque pour examen. Alors, je tiens à préciser, hein. C'est vrai que tous les films qui nous sont déposés pour examen et pour visionnage, on va pas tous les numériser. Mmh. C'est pas qu'on veut pas, c'est pas qu'on ait mauvaise volonté, mais bon, pour faire très simple, une heure de film en préparation, c'est une journée de travail. En numérisation, c'est une journée supplémentaire. En indexation, c'est à peu près 2 jours. Et plus tout ce qui est administratif et tout ça, il y a la cinquième journée, donc il y a une semaine de travail pour une heure de film. Donc on en prend quand même, je pense, de façon un peu plus large que ce que le public peut imaginer, mais malgré tout, il y a quand même une sélection, parce qu'il y a des documents qui sont d'un intérêt moindre, semble-t-il.
Combien vous en récupérez, vous savez, à peu près par mois, il y a une moyenne
Je ne saurais pas vous dire, il y a un à deux dépôts par semaine. Mais le dépôt, ça peut être 2 bobines 16 mm comme une centaine de films. Donc, il y a quelques temps, on était à Brive, on est revenu avec un camion de 12 mètres cubes rempli de projecteurs, de revues de cinéma des années 30, des choses exceptionnelles, et des films ethnologiques sur un réalisateur briviste qui a qui a filmé l'Afrique dans les années 50. Vous voyez, on est en dehors du Limousin, mais c'est des documents qui sont vraiment assez, assez exceptionnels. Et donc voilà, bon, on est revenu avec un 12 mètres cubes.
Donc, on imagine le travail que ça va générer derrière. On a parlé de format. Tous les types de formats sont acceptés ici. Alors, pour les plus jeunes, évidemment, ils comprendraient pas de quoi on parle. Hein. Quand on regarde les petites bobines, moi, ça me fait peur parce que je les reconnais. Donc, ça, oui. Voilà. Pour les jeunes qui connaissent que les Blu-ray ou les 4K HD, etc. Mais ça veut dire que tous les types de formats sont les bienvenus ici.
Tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, alors, les formats, c'est vrai que, sans vouloir rentrer trop dans les détails, mais bon, dans l'histoire du cinéma, il y a eu d'abord les pellicules. Donc des formats argentiques, donc des formats qui sont variables, qui vont de 35 mm, c'était les formats de cinéma, jusqu'à des choses beaucoup plus petites, qu'on appelle par exemple le Super 8, les fans de Spielberg doivent connaître. Ça c'est le format argentique qui a débuté dès la naissance du cinéma, dans les 1895, Frères Lumière. Puis il y a eu le 70-90, le virage du magnétique, les cassettes VHS par exemple. Et après il y a le format numérique qu'on connaît maintenant, vous évoquez les Blu-ray, le 4K et tout ça. Donc nous sommes équipés pour numériser tout ce qui est format argentique. Pour ceux à qui ça parle, du 8, du Super 8, du 9.5, du 16, du Super 16, 17.5, 28, 35, enfin voilà, tous ces formats nous pouvons les traiter. Également les formats magnétiques. Donc les VHS, les Betacam, les U-matic et le format numérique. Enfin voilà, on a une palette qui est, alors elle est jamais exhaustive, mais bon, on est quand même pas loin de pouvoir traiter, je vais dire, les 98%, 9 des formats qu'on va nous emmener.
L'idée, c'est que si on n'y connaît rien, de toute façon, si on voit des petites boîtes en fer avec des bobines à l'intérieur, faut pas hésiter à venir taper à la porte et vous saurez quoi en faire et voir si ça a un intérêt ou non.
Exactement. On doit être l'interlocuteur numéro un parce que si, quand bien même, je vous dis, on n'aurait pas la machine, ce qui est très rare, mais bon, pourquoi pas, où le film ne serait pas intéressant, on pourra au moins réaiguiller vers quelqu'un qui pourra répondre à la question.
Donc on récupère les bobines, mais les machines aussi, justement, pour avoir la gamme la plus large possible, pour pouvoir traiter le maximum de choses. C'est intéressant aussi de récupérer les machines de ceux qui voudraient s'en séparer.
Ça arrive, oui, ça arrive que nous récupérions des machines, parce que pour recoller des films, on a besoin de colleuses, donc on a besoin de certains types de colleuses, certains types de magnétoscopes, parce que les courroies sont sèches, elles cassent, et puis ils les fabriquent plus, et puis à réparer... Bon, c'est sympa, enfin, on a de très bonnes relations avec certains de nos partenaires qui nous réparent des machines, mais bon, au bout d'un moment, ça revient un peu cher, donc bon, ben, on a ce qu'on dit du matériel, enfin, en spare, hein, c'est-à-dire en double, en triple, en quadruple, comme ça, le jour où il y a un lecteur qui tombe en rade, bon, on peut le remplacer sans difficulté, quoi.
Alors, la première étape ensuite, une fois que vous avez fait cette collecte, c'est donc ce qu'on appelle la préparation, avant même d'évoquer la numérisation, ouais, que l'on verra demain, il y a quand même une phase de préparation.
Il y a une phase de préparation qui consiste à nettoyer le film, un nettoyage physique, hein. C'est succinct pour pas détériorer le film et sans passer sur des produits, des solvants trop puissants. On fait attention à l'environnement, hein, quand même, attention. Puis même, des fois, ça fait aussi un peu le cachet si le film est un peu rayé, s'il y a une poussière. Si on peut l'enlever, on va l'enlever, mais bon, on va pas courir outre mesure après ça, parce que ça, c'est l'histoire du format. C'est ce qui fait qu'il est un peu différent des autres, c'est que cette profondeur, ce grain, c'est son identité, c'est son ADN.
Donc on convertit pas la Libération de Limoges en format 3D, par exemple. C'est pas le principe même de ce que vous proposez ici.
Non. on nous en a parlé, ça. On nous a proposé une fois de le faire. Ah oui, c'est vrai. Bon, non, c'est pas le principe. Ici, déjà, c'est d'essayer de numériser le film dans sa version la plus brute, c'est-à-dire en respectant au maximum l'esprit dans lequel il a été tourné. Donc pour revenir à votre question, la préparation, c'est-à-dire on va nettoyer le film, on va le recoller, parce que les collants, les scotchs qui ont 60, 50, 60, 70, 80, 90 ans dans certains cas, bon, mais ils sont plus toujours très très frais. Donc quand vous visionnez le film, ça casse, et donc il faut refaire des fois mètre par mètre, donc c'est pour ça que ça prend énormément de temps. On va remettre de l'amorce sur les films, à l'avant, à l'arrière, et puis après, bon, on va visionner tout ça, donc une petite journée de boulot pour une heure de film.
Un travail que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et peut-être même les moins de 10 ans, de 5 ans, je ne sais pas. Alors on verra en tous les cas comment on traite ces trésors que vous récoltez ici, c'est ce que l'on verra dans la pièce juste à côté, mais pour ça, faudra patienter jusqu'à demain. Et c'est notre troisième rendez-vous de cette semaine consacré à la Cinémathèque du Limousin, que nous découvrons au travers de toutes ces activités, du travail colossal que cela représente, en compagnie de Patrick Malfond, le chargé de mission pour le développement de cette Cinémathèque. On a parlé de la première phase, qui est évidemment la collecte de toutes ces bobines, de tous ces formats que l'on peut vous prêter, vous donner, hein, on l'a expliqué hier. Et donc une fois qu'on a réuni tous ces trésors, qu'on les a préparés, c'est-à-dire un peu visionnés, un petit peu nettoyés, recollés si besoin, on arrive dans cette pièce-là, qui est donc la phase de numérisation, un gros travail, donc un peu le cœur de vos activités.
Ah, c'est complètement le cœur, c'est l'atelier technique ici, avec à ma droite mon collègue et émérite technicien Benoît de Conchat, qui passe des heures et des heures dans le noir et rentre chez lui d'avoir des migraines pas possibles à numériser des films, donc dans tous les formats qu'on évoquait hier. On va le laisser parler,
il va nous expliquer ça très bien. Alors déjà, matériellement parlant, on a une machine qui est sympathique et impressionnante pour ceux qui n'ont qu'un lecteur DVD ou Blu-ray à la maison. Quelle est donc cette bête à côté?
Alors oui, effectivement, c'est un petit peu plus gros. Là, on est sur une machine qui s'appelle un Flash Transfer Choice, qui va prendre la plupart des formats argentiques. Donc, c'est-à-dire, on partira d'un film 8, Super 8 des années 80 à des formats beaucoup plus anciens, datant de début du 20e siècle. Le 28, le 17.5, qui sont des formats très exotiques. Ça fonctionne un petit peu comme un microscope, en fait, c'est-à-dire que un objectif va aller piocher directement image par image et reconstituer ensuite, grâce à un capteur et à un logiciel spécial, les images en signal numérique.
Voilà, et ça passe évidemment via, alors on a le résultat final sur un écran là où on voit ce petit film, alors une petite réunion, je ne sais pas, en mairie visiblement.
Alors apparemment on est à la mairie d'Ille, une réunion de jumelage avec la ville allemande.
Donc là le but ça va être quoi? Parce que donc entre cette machine qui lit et celle qui affiche les images, il y a un ordinateur avec différents réglages. Qu'est-ce que l'on peut faire sur ce film justement?
Alors sur ce film déjà, ce qu'on peut faire, on peut faire un étalonnage primaire, c'est-à-dire qu'on va agir sur l'image globale du film. On va agir sur la couleur, sur les teintes claires et sombres du film. Ça permet de dégrossir au maximum le travail pour que derrière, l'étape suivante de post-production soit la plus minime possible.
Parce que là, l'idée, c'est qu'effectivement, on voit bien qu'on n'est pas sur de la haute définition. Hein, l'image, il y a du grain, c'est un peu flou, c'est très sombre. Donc l'idée, c'est quoi? Ça va être d'éclaircir. Le but, c'est aussi de pas dénaturer le produit, on le disait hier.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, le grain vient du fait que le film est assez ancien et que c'était justement un Super 8, donc définition déjà assez basse. Donc le grain, on ne pourra pas l'enlever sur ce processus-là. On pourra l'enlever peut-être après, avec d'autres filtres numériques. Après, nous, ce qu'on peut faire, c'est intervenir sur le réglage de couleur, de contraste, de luminosité, ce genre de choses. Après, ça passe par de la restauration numérique. Voilà. C'est que, après, il y a une autre étape qui serait d'enlever les rayures, d'améliorer l'image, d'enlever le grain, et tout ce genre d'étapes.
Alors, un travail qui demande quoi? Beaucoup de patience, parce qu'on travaille presque image par image. Il faut prendre le temps d'analyser chaque chose pour ne rien rater, pour pouvoir restaurer si vraiment il y avait un gros dégât.
Là, on n'est pas vraiment sur de l'image à image. On serait plutôt du plan par plan, voilà. À chaque plan, on va faire un petit réglage pour que les suites de plans se correspondent bien. Il faut savoir qu'on est majoritairement sur du film amateur, donc qui dit amateur dit des gens qui, même s'ils se débrouillaient très bien avec leur caméra, n'avaient pas forcément tous les réflexes qu'on peut avoir les professionnels. Donc il y a des petites erreurs des fois, et on essaie de les rattraper pour redonner un petit peu de modernité à leur film.
Quand on rentre le soir, on regarde la télé ou on laisse tomber?
Ah, on laisse tomber la télé le soir en rentrant.
À chercher un bon bouquin. Bon ben merci en tous les cas, et puis bon courage pour la suite, parce que je crois qu'on n'est pas arrivé au bout de ce petit film à traiter. Et on va repartir ensemble, Patrick, avec la phase suivante, puisque là, une fois que la numérisation est faite, il y a une autre étape qui est importante, puisqu'effectivement, pour regrouper tout ce travail qui a été numérisé, il y a une base de données, c'est pile, c'est donc cette base de données que vous avez mise en place.
Exactement, on a développé cette base de données qui nous permet de travailler et d'indexer sur tous les films qui ont été préparés, numérisés, donc c'est l'étape d'après. Si vous avez 10 000 heures de films et que vous ne savez pas où retrouver ce film-là, ça ne sert à rien. Donc l'indexation, c'est une étape indispensable.
Les choses se passent dans la pièce d'à côté.
Et donc l'indexation, cette étape clé qui est pareil, ultra chronophage, parce que quand Véronique va indexer, c'est-à-dire qu'il faut... On est en phase de film, des fois on n'a aucune indication. Quelle année, quel lieu, comment, pourquoi. Et il faut rechercher, alors... On travaille pareil avec un certain nombre de spécialistes de l'aviation, du chemin de fer, sur la religion, sur le sport. Personne n'a la science infuse. Véronique n'est pas loin de l'avoir. Elle a une extinction de gorge, elle a mangé trop de chocolatine. Enfin,
ça ira mieux dès que je vais être reparti. Alors, c'est l'esprit magique de la radio.
C'est l'esprit magique. Et donc, l'indexation, c'est avec le pile. C'est une web application, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'installation. Et on l'a développée vraiment en fonction de nos besoins. On va la mettre à disposition des structures de La Rochelle et d'Angoulême, donc qui vont travailler sur ce logiciel Made in Limousin pour indexer. Et puis c'est une des premières étapes pour la création de ce réseau et le travail en commun. Ça a été de haute lutte de faire ça, mais bon, on en est content.
Si on regarde les différents onglets, ce qu'il faut préciser, c'est qu'effectivement, tout le monde pense cinémathèque égale film, on en a beaucoup parlé, mais pas seulement, puisque vous indexez des affiches, des livres, du matériel également.
Exactement, alors le gros de l'activité, c'est vrai que c'est l'image animée, mais on indexe également, comme vous l'avez dit, des affiches de cinéma, alors on en a plusieurs milliers, des magazines. On a eu un don l'autre jour d'un magazine de cinéastes amateurs qui a commencé dans les années 30. Et pour nous, ce sont des pépites parce qu'on retrouve des vieilles publicités, on retrouve des noms de déposants, il y a des pistes de recherche. Et puis c'est des documents qui sont extrêmement rares parce que des collections comme ça, il n'y en a pas 50 en France. Donc on travaille sur ces fonds bibliographiques, aussi également iconographiques, sur des photos, sur des plaques de verre, sur des choses qui ont été numérisées, qui ont attrait, pareil, à la région, au département, ou des documents qui ont aussi été captés.
On l'a dit que la cinémathèque, elle est de 2010. On a l'impression que c'est des trésors sans fin. On trouvera toujours des millions de choses à numériser, à indexer. C'est quoi? C'est passionnant de se dire on a encore plein de choses à faire, ou limite c'est décourageant de se dire mais on n'arrivera jamais de toute façon à recenser tout ça?
Il y a un peu la peur du vide des fois, ouais. parce que quand on réfléchit à tous les documents qui sont actuellement. On a tous un téléphone portable, ou quasiment tous, et on a beaucoup qui ont des smartphones et qui ont leur petit capteur vidéo, et puis on fait des films qui durent 10 secondes, 30 secondes. Et puis dans 10 ans, quand il faudra traiter ces films-là, où est-ce qu'on les trouvera, comment? Enfin, ça va être des casse-têtes monumentaux.
Et bon, merci, la radio ne fait que du son, comme ça je ne donne pas de travail pour l'avenir.
Merci. merci de penser à notre avenir. Et non, mais oui, c'est bien, parce que déjà, ça veut dire qu'on aura du travail pendant quelques années, donc c'est bien, c'est une voie qui a de l'avenir.
Puis une partie sera déjà numérisée, c'est aussi l'avantage.
C'est aussi l'avantage. Mais bon, c'est vrai que la multiplication des formats récents, et puis tous ceux que, même des anciens qu'on continue de récolter, ça s'accumule et ça laisse présager de longues journées d'hiver au coin du feu à regarder devant sa visionneuse du Super 8.
Hein. C'est bien. Après, vous ennuyez, donc c'est clair. Et on verra demain d'ailleurs justement d'autres facettes de vos activités, puisqu'une fois qu'on a indexé tout ça, il va falloir les s'en servir, les valoriser. Hein. Ce sera le terme que nous évoquerons demain dans le prochain rendez-vous. Notre quatrième et avant-dernier rendez-vous de cette semaine, nous découvrons, je le rappelle, la Cinémathèque du Limousin. Nous sommes toujours à Limoges, rue François Chaigneux, et on va aujourd'hui s'intéresser à la valorisation de tous ces trésors qui sont traités par la Cinémathèque. Alors avant de les valoriser, il faut les conserver, ça c'est une chose toute bête, mais on les trouve où? Parce que vous les numérisez, ça fait des fichiers, ça on a bien compris. Ils se trouvent où? On fait des sauvegardes, comment ça se passe?
La question de la conservation est une question vraiment clé d'une cinémathèque. Il n'y a pas de cinémathèque s'il n'y a pas de conservation. Il y a deux éléments de conservation vraiment à prendre en compte, c'est la conservation des éléments physiques, donc des bobines originales, parce que le numérique c'est très bien, mais bon, si un jour pour x ou y raison il y a des soucis, on travaille pour qu'il n'y en ait pas. Mais s'il y en avait, ou s'il faut repartir sur l'élément original, on a toujours cette possibilité là, et c'est pour ça qu'on ne cesse de répéter aux gens qui reprennent leurs films ou qui veulent les garder, qui veulent pas les déposer, enfin peu importe, ne jetez pas vos films. Parce qu'on pourra toujours le renumériser. Il y a des films qui ont 90 ans, qu'on numérise dans une qualité impeccable. Ils attendront 10 ans, c'est parfait. Donc la conservation, nous ce qu'on fait, c'est qu'on a une convention de partenariat avec les archives départementales de la Haute-Vienne, où les films déposés à la Cinémathèque iront ou vont, et pour qu'ils soient conservés à une température, une hygrométrie, une ventilation qui soit contrôlée et qui soit plus adapté à la conservation d'un élément film que dans un grenier où ça peut être très bien. Mais bon, aux archives, ce sera une conservation quand même plus adaptée. Et l'autre élément, c'est la conservation des éléments numériques. On pourrait penser l'inverse, mais c'est plus coûteux que le physique, parce que ça demande des migrations tous les 5-6 ans peut-être. Et tous les 5-6 ans, on fait des copies de copies de copies pour être sûr, avec des sauvegardes, des doubles, des triples, pour être sûr que les fichiers sont toujours consultables, qu'ils sont en bon état, qu'ils sont sécurisés dans des endroits différents. Alors on fonctionne sur un système, alors que je sais pas si ça parlera à grand monde, mais sur du LTO, Linear Tape Open, qui est un système qui est utilisé par le CNC, l'INA, c'est le actuellement et depuis une dizaine d'années, c'est le top du top de la conservation numérique. C'est principalement fait pour la conservation de gros volumes. Là, on n'est pas sur le méga, on n'est pas sur le giga, on parle de tera, mais bon, On n'est pas très loin du PETA. Donc,
Il y a un peu de place, mais il y a beaucoup de choses à y mettre.
Il y a un peu de place, il y a beaucoup de choses à y mettre. Et là, dans la numérisation qu'on fait, vu qu'on fait une numérisation la plus qualitative possible et, et brute, on part sur des volumes gigantesques. Alors, je veux dire une ânerie, mais une heure de film, ça va prendre 1000 gigas peut-être. Mais c'est la qualité des films qui nous sont déposés et qui seront regardés par nos enfants, nos petits-enfants, par les générations futures qui en dépendent. Donc, alors ça va faire la troisième fois que je dis que c'est le cœur du réacteur. La numérisation, c'est un cœur. En fait, on fonctionne à trois poumons. Il y a le poumon de la numérisation, de l'indexation et aussi de la conservation.
La valorisation, c'est la grande étape aussi, hein. Tout ce travail, c'est évidemment pour qu'on mette tous ces films, tout ce que vous numérisez en valeur. Comment ça se passe? C'est des projections, il y a différentes choses. On a évidemment parlé du site internet.
Alors il y a différentes choses. Il y a le site internet sur lequel il y a plusieurs milliers de séquences en ligne, plusieurs centaines d'heures.
Qui a été fait d'ailleurs assez, j'allais dire tardivement. En tous les cas, si c'est la Cinémathèque date de 2010, le site lui c'était quoi, 2014 je crois.
Ouais, c'est ça. Le site on pouvait l'ouvrir il y a 5-6 ans, mais bon, on l'aurait ouvert avec 3 minutes d'archives, 5 minutes 10. Donc quand on l'a ouvert, évidemment, là, il y avait plusieurs centaines d'archives déjà accessibles. Donc il fallait qu'il y ait un peu de matière. Les autres moyens que nous utilisons, les autres canaux de valorisation, ben comme vous l'avez dit, c'est en salle, dans les salles du département, alors ça peut être des salles de spectacle, mais aussi et surtout dans les salles de cinéma, où on fait des projections de montage d'archives. On les monte, on les sonorise pour que ça puisse être accessible au public.
Vous avez aussi numérisé, travaillé sur des longs métrages qui ont pu ressortir grâce à votre travail.
Bien sûr, oui. On a un partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse, qui nous envoie des films qui ne peuvent pas traiter. Alors, Cinémathèque de Toulouse, on gonfle un peu les muscles quand on dit ça, mais c'est 52 ou 53 ans d'existence, c'est 30 salariés, c'est plusieurs salles de cinéma, c'est la deuxième cinémathèque en France. Mais bon, quand ils viennent nous voir, ils disent, bon, ben là, vous savez faire ça, ce que nous, on sait pas faire, ben.
Quand voilà. Le numéro s'affiche, on est content.
Bon, on est pas mal, on prend bien. Et donc, ben, on a travaillé sur la ressortie de films qui sont conservés chez eux. On vient de terminer la numérisation d'un fonds de la Cinémathèque de Turin, par exemple, qui est passé par Toulouse, qui l'a envoyé vers nous. Donc oui, il y a des films de cinéma, des films de fiction qui sont traités ici, qui ressortent en salle. Alors c'est pas des films qui sortent dans 500 salles en France, hein, on est d'accord, hein, ça reste des réseaux qui sont réservés à un public plus ou moins averti, mais c'est un travail que l'on fait également. Ouais.
Donc site internet, le cinéma.
Le cinéma, et puis aussi on fait des valorisations, j'en parlais, de films tournés en région. Mopra à Guéret, la Knock à Uzerche, l'affaire Lafarge à Tulle, Providence à Ambazac, tous ces films-là qui ont été tournés en région. On fait en sorte de travailler sur leur valorisation et leur sortie des blocos dans lesquels ils sont, dans des institutions parisiennes où ils roupillent gentiment, mais où ils ne sont vus par personne.
Et puis un petit truc sympa aussi qu'on n'a pas dit, c'est entre le site internet justement, il y a la géolocalisation qui peut être super intéressante entre un film que vous allez mettre en ligne et qu'on va pouvoir resituer finalement aujourd'hui.
Bah tout à fait, bah si vous habitez à Châteauneuf-la-Forêt, vous allez sur notre carte et puis vous allez zoomer et puis vous allez voir les documents. Parce que c'est vrai que quand on fait une recherche par mots-clés, si vous n'avez pas le mot exact, vous n'allez pas forcément trouver l'archive qui peut vous intéresser, alors qu'en fait, à quelques kilomètres de là, dans un lieu dit, il se trouve qu'il y a un film qui a été tourné. Donc c'est une autre façon de rechercher, qui est un peu ludique. En plus, c'est joli, il y a des couleurs partout, ça en jette bien.
Et puis vous avez l'impression que grâce à votre travail, il y a un attrait grandissant pour l'histoire, la curiosité sur l'histoire du Limousin.
On le voit bien sur les programmes télévisuels, les films à base d'archives, il y en a de plus en plus. Là, ils ont filmé la guerre en couleur, Apocalypse, tout ça, c'est des documents auxquels on participe, hein. Les producteurs viennent nous voir et un certain nombre de fois, c'est des documents qu'on a numérisés sont diffusés dans ces documentaires-là. On voit qu'il y a un attrait du public. On en est très content. Donc, les canaux de valorisation sont multiples et variés et ça fonctionne plutôt pas mal.
Encore de beaux jours de travail devant vous. On aura l'occasion d'en reparler demain pour refermer la semaine ensemble. On parlera des partenaires avec lesquels vous travaillez et puis peut-être de cette vision de l'avenir un petit peu de votre travail pour refermer la semaine de destination ensemble. Et on va finir la semaine comme nous l'avons commencé, installé à la Cinémathèque du Limousin. Nous sommes toujours en compagnie de Patrick Malfond, le chargé de mission pour le développement de cette cinémathèque. On va finir la semaine peut-être en parlant d'avenir dans quelques instants, puis d'abord de tous avec qui vous travaillez.
Oui, tout à fait. Alors, il y a les partenaires déjà financiers, le ministère de la Culture, la DRAC, hein, la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Haute-Vienne, de la Creuse, les archives départementales de la Corrèze, de la Creuse, de la Haute-Vienne, municipale de Limoges. Enfin bon, il y a tous ces partenaires, la ville de Limoges.
qui sont sensibles, parce qu'on dit souvent la culture, ça passe un peu au dernier plan. Non, en tout cas, en Limousin, on a conscience que on a besoin de sauvegarder cette histoire de la région, et donc il faut y mettre les moyens, parce qu'on l'a dit, ça coûte aussi beaucoup d'argent tout ça.
Je pense qu'ils sont sensibles, enfin en tout cas leur participation renouvelée chaque année le prouve. On a toujours envie qu'on soit plus sensible que l'année précédente, hein, on va pas se mentir. Mais bon, enfin on est plutôt quand même très satisfait des partenariats engagés, on les remercie. Et après il y a d'autres partenariats avec des musées, avec la fac, avec différentes institutions qui se nouent, et avec des cinémathèques de Toulouse, la cinémathèque de Turin, la cinémathèque de Grenoble, des partenariats institutionnels et privés qui font que ce travail est valorisé de façon plus diffuse.
Et je sentais que vous êtes de plus en plus sollicité pour ces projections d'images.
Tout à fait. Alors malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes les sollicitations, il y en a beaucoup. Mais oui, des petites salles. Il y a 15 jours, on était à Maniac Laval pour une projection sur une cinéaste amateur, Madame Bossage, qui a filmé le Maniac Laval, le Dora dans les années 70-80, qui a filmé les vieux métiers, les traditions populaires. Et on a fait une projection un mercredi à 18h, il y avait 120 personnes dans la salle. 120 personnes qui sont nues et qui étaient et c'est génial parce que dans la salle tout le monde commente le film. Vous voyez, on n'entend pas le bruit du popcorn, mais on entend le bruit de ah mais c'était le pont Lama, c'est passé ça, et c'est vivant, et ça redonne des salles vivantes, et ça c'est super.
Pour vous c'est sympa aussi parce que la spécificité de la cinémathèque, on pourrait s'attendre à avoir des salles de cinéma de projection partout dans les locaux, il y en a pas une.
Bah si, en fait il y en a partout, mais sur le territoire.
Mais ici où nous nous trouvons, il y a rien, donc c'est un peu frustrant pour vous aussi.
Oui, tout à fait. Non, l'intérêt, c'est que le public le voit. Après, nous, oui, s'il y en avait une en privé, c'est très bien, mais bon, on fait un travail vraiment d'intérêt général. On n'est pas dans l'intérêt privé. Donc, aller sur le terrain et diffuser ses films, c'est la meilleure récompense.
Alors, on parle d'avenir. Pour vous, votre travail, c'est quoi? C'est vraiment passer tout ça à la postérité. Pour vous, c'est un peu définitif. On l'a vu, évidemment, hein, la technologie évolue. Il y a quelques années, quand on était sur des bobines, on ne s'imaginait sûrement pas travailler aujourd'hui sur disque dur numérique et carte SD. Ça veut dire qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait?
Eh bien, on fait en sorte qu'il soit sauvegardé pour le plus longtemps possible. On a mis les moyens pour. Ça n'empêche pas que la technologie va continuer d'évoluer, et donc il va falloir faire de la veille informatique pour conserver tout ça. Mais on est dans des thématiques très similaires au travail effectué par des archives départementales, hein. C'est-à-dire collecter, conserver, valoriser des documents. Et il faut pas oublier que l'image animée, c'est un type d'archive qui est très récent, ça a 100 ans, ça a 120 ans. Le papier, on le conserve, la bibliothèque d'Alexandrie, c'était il y a 2000 ans. Donc il a pas fallu 100 ans avant qu'on se pose la question de sauvegarder le papier, il a fallu sûrement beaucoup plus. Donc la conservation de l'image animée, c'est ça rentre petit à petit dans les volontés publiques et politiques de préservation du patrimoine, mais il faut que ça fasse son chemin. Donc on a fait en sorte de notre côté en Limousin, mais il y a d'autres régions qui l'ont fait, hein, de faire le travail nécessaire, mais il va se poursuivre et il va s'étendre à n'en pas douter.
Et puis en même temps, aujourd'hui la vidéo elle est partout, on l'a dit dans la semaine, hein, les téléphones, tout le monde filme tout et n'importe quoi, bien souvent ça reste dans les téléphones, parfois on change de téléphone et on laisse malheureusement tout à l'intérieur. Pour vous c'est une gestion différente par rapport à il y a quelques années où on gardait les bobines précieusement dans une armoire étiquetée? C'est une mentalité qui a changé, ça va pas forcément faciliter le travail non plus dans les années qui viennent?
Je pense qu'il va y avoir une conscience dans quelques années, enfin ça commence déjà, enfin la période ouais, de 2005-2010 ou 2015, là il y a on filme à tout va, tout le monde prend des photos, mais je dis ça moi le premier, hein. Et on va pas le conserver au bon endroit, on va pas mettre un titre, on va pas, enfin c'est vrai qu'il y a tout un pan d'image qui va être très difficile de traiter, mais je pense que les consciences vont, enfin ça évolue parce qu'on apprend de ses erreurs. Les périodes de transition sont jamais très heureuses. C'est comme dans le point de vue technique, quand les premières caméras avec le zoom sont arrivées, tous les cinéastes faisaient du zoom. Donc on a des périodes des années 70 où c'est horrible, où c'est zoom, zoom, zoom. Quand il y a eu la couleur, dans les années 30, tout le monde fumait les pétunias. Parce que c'est beau un pétunia en fleurs. Mais donc voilà, là il y a l'avancée du numérique, donc tout le monde prend des photos à gogo, et ça évoluera, mais bon, c'est ces transitions-là qui font que c'est des périodes pas toujours très heureuses.
Pensez-y, classer, noter, en tous les cas, on fait passer le message. Pour finir, quand on est toute la journée dans cet univers-là de l'image, comment on en ressort? On a envie de se faire un ciné derrière, ou bien au contraire, on en vient pas de s'écarter des écrans? Comment ça se passe, à titre personnel en tout cas?
Non, ça va bien. Après, c'est sûr, quand on est le nez collé à l'image toute la semaine, le cordonnier, je sais pas si il répare ses chaussures quand il rentre chez lui, hein, vous voyez, hein. Mais bon, enfin, si on fait ce métier, il n'y a pas de hasard, on aime quand même l'image, donc on va au cinéma, on regarde des choses.
Et est-ce qu'on est plutôt un amoureux du cinéma à l'ancienne, avec le film sur pellicule, avec un peu de grain, ou les films en 3D, retouchés, bourrés d'effets spéciaux, on adhère aussi ?
Il y a plusieurs écoles. Et puis le 3D, ça existe depuis les années 50, hein, la 3D, donc c'est les effets stéréoscopiques, c'est pas vieux comme le monde, mais c'est presque vieux comme le cinéma, donc une évolution n'est jamais la première évolution, il y a toujours eu quelqu'un qui a lancé, donc plus on connaît, plus on s'intéresse à des choses différentes, donc c'est juste la curiosité qui poussera à aller plus loin.
Amoureux de l'image avant tout.
Ouais, amoureux de l'image, ouais. Un bon résumé.